Le Club des idées sur France Inter, Alexis Brézé du Figaro, Grégoire Bizot de Libération et Laurence Luret de France Inter. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Patricia, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Les nouveaux visages du fascisme, c'est l'ouvrage sorti chez Textuel dont vous allez nous faire la critique, Laurence.
Et oui, au menu ce matin, un petit livre que vous pourriez mettre dans votre poche, Patricia. 149 pages, celui d'Enzo Traverso. Vous voyez qui c'est, Patricia ?
Moi, pas du tout, mais Alexis Brézé, son œuvre complète.
Oui, c'est un historien des idées, qui est professeur à l'université de Picardie.
Et à l'université surtout de Cornell, à New York, aux États-Unis. Historien d'origine italienne, spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle du XXe siècle. Il avait publié en 2013 « Où sont les intellectuels ?» et plus récemment, à l'automne dernier, « Mélancolie de gauche ». Cette fois-ci, il propose le concept de post-fascisme pour définir les nouveaux courants populistes et autoritaires qu'il observe des deux côtés de l'Atlantique, de Trump à Marine Le Pen. Grégoire Bizot, qu'avez-vous pensé de cette analyse comparative entre le fascisme du XXe siècle et sa mutation actuelle à travers des mouvements extrémistes post-fascistes, dit Enzo Traverso?
D'abord, dans ce tout petit livre, il y a de quoi enflammer un débat démocratique immédiatement.
Ça va
il
venir.
Y a tous les mots qui rendent les commentateurs de gauche ou de droite intellectuels fous. Et je trouve que c'est un vrai antidote pour justement ces débats qui souvent sont très hystériques, puisque je le trouve très apaisé, ce livre, même si très engagé, et probablement Alexis n'aimerait pas cet engagement, mais il est engagé, mais il est apaisé, et il y a un vrai effort pour moi, très important. Il fait un effort d'explicitation des mots. Aujourd'hui, on entend dans le débat public les mots de islamo-fasciste. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que le trumpisme est un fascisme? Est-ce que les régimes autoritaires sont des fascistes? Est-ce que l'islamophobie peut être comparée ou pas à un antisémitisme? Est-ce que l'antisémitisme d'aujourd'hui ressemble ou pas à celui du début du XXe siècle ou pas? Toutes ces questions sont élaborées et je trouve de manière totalement accessible. Et encore une fois, je trouve qu'il fait œuvre de pédagogie. Donc moi j'ai beaucoup aimé.
Alexis Brézé, votre réaction?
Alors, c'est vrai que c'est un auteur engagé, c'est un historien d'extrême gauche, c'est un ancien de la LCR qui a écrit à Rouge. Et qui, analysant ce que nous constatons tous, c'est-à-dire la montée de ces partis populistes, nationalistes, xénophobes, on peut les appeler comme on veut, essaie d'analyser ça. Étant de gauche et même d'extrême gauche, il ne veut surtout pas que ces phénomènes puissent bouleverser le clivage droite-gauche. Il faut que ce soit uniquement de droite et d'extrême droite, d'où ce nom de post-fascisme. Il récuse le mot de populisme, après tout pourquoi pas, il dit c'est pas du populisme, c'est du post-fascisme. Et là j'avoue que le concept de post-fascisme, Grégoire disait, il définit, le problème c'est qu'il le définit comme une transition en cours dont on ne connaît pas l'aboutissement. Ben, concept qu'on définit comme une transition en cours dont on ne connaît pas l'aboutissement, pour le moins qu'on puisse dire, c'est un concept étonnamment flou. Dire, comme il le dit, évidemment le Front National est fasciste et sort de la matrice du fascisme à la française. Encore faudrait-il définir le fascisme à la française, c'est très controversé et c'est pas du tout évident. Et de dire que le Front National est fasciste, on pourrait dire qu'il sorte que c'est le Front National des origines est bonapartiste, qu'il est boulangiste, qu'il est extrémiste, qu'il est tout ce qu'on veut. La question de fascisme me paraît un tout petit peu caricaturale.
Non mais Alexis ne donne pas cette version caricaturale du Front National. Non, il dit que le Front National est présentement un réceptacle d'aspirations et de racines parfois contradictoires, mêlant l'extrême droite.
Sa matrice assez évidente est celle du fascisme français.
Oui, sa matrice, oui. Mais à l'intérieur de cette matrice et ses racines, il y a des choses, il explique bien qu'il y a des choses, c'est pas un groupe totalement homogène, c'est pas une vision homogène, c'est pas une matrice idéologique homogène, qu'il y a des intérêts contradictoires. Je voulais juste reprendre sur la question du populisme, que j'ai trouvé justement ça très intéressant. Il donne une définition du populisme, il dit que le populisme n'est pas une nouvelle idéologie, et il dit que le populisme est un style. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire un style? C'est-à-dire c'est une façon de faire de la politique. Et il conteste le fait que le populisme puisse être une idéologie, puisqu'il dit que ça gomme principalement le clivage gauche-droite.
Voilà. Parce que
derrière le populisme, il a raison, le populisme peut être de gauche, le populisme peut être de droite, et il y a une certaine instrumentalisation parfois du mot.
Mais il dit que ce à quoi nous assistons n'est pas populiste parce qu'il ne veut pas admettre ce qui me paraît quand même malgré tout assez évident, que ces mouvements-là bouleversent le clivage droite-gauche. Et ça, il ne le veut pas, parce que ça voudrait dire que la gauche y participe de près ou de loin.
Ah,
et donc,
il le dit. Que Mélenchon, c'est un mouvement populiste. Il explicite. Hein.
Mais en tout cas, dans ces mouvements, que ce soit le Front National, Trump, etc., il dit il faut pas parler populiste parce que c'est pas la gauche. Bon, je suis pas sûr que ce soit très rigoureux.
Non, voilà. Là, il faut que le lecteur nous fasse confiance. Alexis Brézé donne une vision assez caricaturale de l'ouvrage. Je suis pas le porte-parole d'Enzo Traverso, surtout pas. Mais précisément, il explique que, il dit par exemple le mot islamo-fasciste, qui est un mot qu'on entend dans le débat public. Il dit que ce mot est à prendre avec beaucoup de précautions. Il parle de est-ce que Daesh est un mot fasciste. Il prend ses distances. Est-ce que Trump est un... Donc je pense qu'au contraire, il donne de la nuance et de la profondeur historique. Je crois pas qu'il a une... Ce livre n'est pas une clé, il plaque pas un schéma.
Bien.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances et de subtilité que ce que tu veux
dire. Il dit bien que l'état d'urgence décidé par François Hollande, que la répression, je lis les citations, contre les opposants à la loi travail et que la violence policière généralisée que nous vivons s'inscrit dans le phénomène du post-fascisme. Je l'invente pas, c'est écrit dans le livre. Mais moi, j'ajoute que c'est pas, pour moi, l'essentiel du livre, il est pas là. Moi, l'essentiel du livre, je crois, qui est intéressant, mais moi, que je trouve assez inquiétant, c'est cette critique absolument virulente qu'il fait de l'islamophobie et de ce parallèle qu'il fait. Le fond de sa démonstration, c'est de dire les musulmans aujourd'hui sont ce qu'étaient autrefois les juifs. Il n'y a plus aujourd'hui d'antisémitisme. L'antisémitisme a été remplacé par l'islamophobie.
Alors, il dit pas tout à fait. Il n'existe plus.
Attention, parce qu'il est plus précis que ça, plus intelligent et plus lettré que ça, si je peux me permettre. Il dit, attention, l'islamophobie aujourd'hui ressemble à l'antisémitisme, mais pas à cet antisémitisme français du début du siècle. L'antisémitisme français du début du siècle était un antisémitisme d'État, on va dire, où on rejetait le juif comme trop intégré au pouvoir, à la République, à la domination. Et il dit, aujourd'hui, cette islamophobie-là ne ressemble en rien à celle-là. L'islamophobie, aujourd'hui, ressemble plus à un antisémitisme, dit-il, là, je ne suis pas du tout historien, mais là, je trouve que ça me parle beaucoup plus, en tout cas, à un antisémitisme de la fin du 19e en Allemagne, où le juif était combattu pour ce qu'il l'était au-delà de sa religion, qu'il n'était pas intégrable et qu'il menaçait la culture de la nation allemande. Et on voit bien aujourd'hui dans le discours politique, et notamment à droite et au Front National, que la question musulmane, hein, aujourd'hui, elle est contestée parce qu'elle remettrait en question les racines chrétiennes de la France. Et donc, ça, le parallèle est assez pertinent.
Moi, je suis très choqué par ce parallèle, parce que malgré tout, il le dit notamment dans une interview à Regard en disant, aujourd'hui, finalement, il n'y a plus d'antisémitisme, et le vrai problème aujourd'hui, c'est l'islamophobie. D'abord, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a plus d'antisémitisme. Évidemment, ça ne tient pas debout, et qu'on ne va pas rappeler Mohamed Merah, l'hypercachère, Ilan Halimi, etc., et tout ce qui se passe dans les banlieues.
Mais c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il dit. Il dit que l'antisémitisme existe, il a changé un tout petit peu de nature, c'est intéressant.
Non. Ce qu'il ne dit à aucun moment, c'est la nature de ce nouvel antisémitisme. Non, pas du tout.
Il dit qu'il est aujourd'hui très politique, que aujourd'hui, pour notamment les gens de quartier, le juif incarne le monde occidental, et que c'est le dominant en général, et qu'il lui donne une dimension beaucoup plus politique, et il fait un parallèle, je pense que là c'est pertinent, que c'est très teinté, très influencé du conflit entre Israël et la Palestine. Et je pense que ça, c'est une analyse, mais il tempère pas du tout les menaces antisémites aujourd'hui.
Dans les quartiers, de la part de musulmans. Si, et on sent bien que c'est pas... Moi, je voudrais renvoyer les lecteurs aussi à un livre tout à fait intéressant qui est celui de Pascal Bruckner sur l'islamophobie, qui montre notamment que l'islamophobie, précisément, ce concept qui est éminemment critiquable, je renvoie à Elisabeth Bentetter, qui dit « N'ayons pas peur d'être traités d'islamophobes », sert précisément à désarmer la vraie menace aujourd'hui, la vraie nature de l'antisémitisme.
Laurence Luret, votre lecture de ces nouveaux visages du fascisme?
Eh bien écoutez, moi je dirais qu'à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, c'est un livre qui peut vous aider, chers auditeurs, à vous faire votre propre opinion, à réfléchir aux menaces auxquelles notre démocratie est confrontée, vagues montantes de l'extrême droite ou terrorisme islamique. Voici, selon l'historien Enzo Traverso, les nouveaux visages du post-fascisme. Alors d'abord, il y a la forme de cet essai, 149 pages, très accessible. Il faut souligner cet effort de concision et de clarté, c'est plutôt assez pédagogique. C'est comme une conversation à laquelle vous assisteriez entre l'anthropologue Régis Mérand, qui pose les questions, et Enzo Traverso. Ça se prête bien à une lecture en plusieurs fois, à petite gorgée, avec un bon café. Sur le fond maintenant, Enzo Traverso, il développe son concept de menace post-fasciste. On vient vient d'en parler, qui est, je cite, une réponse régressive dans un monde en panne d'utopie qui se nourrit de promesses fantasmées d'un retour à un passé mythifié. D'ailleurs, il n'exclut pas du tout l'hypothèse de l'importance de la chute du mur de Berlin dans tout ce mouvement. Alors pour lui, il y a un lien entre le vide laissé par la fin des utopies, la chute du mur, et le développement des mouvements d'extrême droite ou de l'islamiste. Il ose même une analogie qui va sans doute irriter, on vient de l'entendre, entre l'islamophobie d'aujourd'hui et l'antisémitisme d'hier. Pour l'auteur, l'islamophobie structure désormais les nationalismes européens, comme c'était le cas pour l'antisémitisme dans la première moitié du XXe siècle. Alors voilà donc un livre qui ne manquera pas de stimuler le débat d'idées. Patricia, c'est pour vous.
Et vous pouvez rappeler le titre, l'auteur et l'éditeur.
Les nouveaux visages du fascisme d'Enzo Traverso, et c'est publié aux éditions Textuelles.
Merci Laurence Luret, Alexis Brézé et Grégoire Bizot. À la semaine prochaine.
À dimanche.